Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, Ma vie souvenirs. Rêve et pensée est une autobiographie partielle de Carl Gustav Jung. Élaborée à partir de 1957 avec la collaboration de Agnella Jaffé et publiée après la mort du psychiatre suisse. Le livre ne se présente pas comme une biographie linéaire, ni comme un bilan académique de la psychologie analytique. Il rassemble souvenirs de jeunesse, rêves, visions, réflexions tardives, récits de voyages et méditations sur la religion, les mythes, la mort et la formation de la personnalité. Jung y privilégie les événements intérieurs plutôt que les faits publics, car il veut montrer comment une vie peut être comprise comme le déploiement progressif de forces inconscientes. Cette orientation donne au texte une place singulière entre mémoire personnelle, auto-analyse et testament intellectuel. Le lecteur y trouve moins une chronologie complète de carrière que la mise en forme subjective des expériences qui ont nourri les concepts jungiens de inconscient collectif. Archétypes, ombre et individuation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une autobiographie construite comme mythe personnel plutôt que comme chronique. La particularité centrale de ma vie tient au refus de Jung de raconter son existence comme une succession ordonnée de dates, postes, succès et controverses. Il sélectionne surtout les moments qui ont eu une portée psychique durable, impressions enfantines, conflits intérieurs, rêves récurrents, visions et rencontres qui ont modifié sa compréhension de lui-même. Cette méthode explique pourquoi certains aspects de sa vie publique restent secondaires, tandis que des expériences intimes occupent une place considérable. Le livre repose sur une idée forte, une existence ne devient intelligible que si elle est lue comme une forme symbolique, donc comme un mythe personnel. Ce terme ne signifie pas invention, mais organisation de la mémoire autour de motifs profonds. Jung montre ainsi comment une biographie peut être moins une preuve historique qu'une interprétation de destin intérieur. Cette approche donne au texte sa profondeur. Mais aussi ça limite le lecteur cherchant une histoire complète de la psychiatrie, des institutions ou des débats scientifiques devra consulter aussi des biographies critiques. Deuxièmement, les rêves comme matériau principal de connaissance psychique, les rêves occupent dans le livre une fonction plus importante que celle de simples anecdotes. Jung les traite comme des productions autonomes de la psyché, capables de révéler des tensions, des images et des directions que la conscience ne maîtrise pas. Cette place donnée aux rêves illustre un point fondamental de la psychologie analytique : le moi conscient ne constitue pas toute la personnalité. Les songes, visions et images intérieures deviennent des indices qui permettent de comprendre la relation entre vie personnelle et couche plus ancienne de expérience humaine. Le texte montre aussi la différence entre interprétation symbolique et explication réductrice. Jung ne ramène pas systématiquement le rêve à un désir ou à un événement récent. Il cherche plutôt la configuration symbolique qui transforme la compréhension de soi. Cette démarche demande prudence, car elle ne fournit pas une méthode mécanique. Le lecteur y apprend surtout une attitude d'observer les images intérieures avec sérieux, sans les confondre avec des faits extérieurs, ni les rejeter comme de simples fantaisies. Troisièmement, la rupture avec Freud comme passage vers une psychologie plus vaste, le livre revient sur la relation de Jung avec Sigmund Freud. Non seulement comme épisode personnel, mais comme moment décisif dans la formation de sa pensée. Jung reconnaît la puissance fondatrice de la psychanalyse freudienne, tout en soulignant ce qui lui paraît insuffisant dans une lecture trop centrée sur la sexualité et le refoulement individuel. La rupture devient alors le signe d'une divergence théorique profonde pour Jung, la psyché ne se réduit pas à une histoire personnelle de symptômes. Elle contient aussi des formes symboliques communes, visibles dans les mythes, religions, contes et rêves. Ma vie ne propose pas une analyse historique neutre de ce conflit. Mais il permet de comprendre comment Jung a vécu cette séparation comme une nécessité intellectuelle et existentielle. Ce passage éclaire la naissance de la psychologie analytique. Il montre que ces concepts ne sont pas seulement issus de spéculations abstraites, mais aussi d'une crise de filiation, d'une confrontation avec une autorité majeure et d'un effort pour penser plus largement la vie psychique. Quatrième moment mythe. Religion et inconscient collectif dans la formation du sens, ma vie accorde une place considérable aux traditions religieuses, aux mythes, aux symboles et aux images collectives. Jung ne les aborde pas principalement comme croyances à défendre ou à réfuter, mais comme expression de la psyché humaine. Cette position explique son intérêt pour le numineux, terme qui désigne une expérience de puissance et de mystère dépassant le cadre rationnel ordinaire. Dans le livre, les images religieuses ne sont pas traitées comme ornements culturels, elles répondent à un besoin psychique de totalité, de médiation entre conscience et inconscient, entre ordre moral et forces obscures. Cette perspective donne son importance au concept de inconscient collectif, compris comme réservoir de formes archétypiques qui structurent des expériences humaines répétées. Le texte montre pourquoi Jung voyait dans le symbolisme religieux une ressource clinique et existentielle. Il reste toutefois distinct d'une confession de foi traditionnelle, son intérêt porte sur la fonction psychologique des images sacrées, non sur la démonstration dogmatique de leur vérité. En dernier lieu, voyage, tour de Bollingen et individuation concrète. Les récits de voyage et les passages consacrés à la tour de Bollingen donnent au livre une dimension concrète souvent négligée. Les déplacements de Jung en Afrique, en Inde ou auprès de populations autochtones ne sont pas présentés comme de simples curiosités ethnographiques. Ils deviennent des occasions de comparer les formes de conscience, les rapports au sacré, au corps, au temps et à la communauté. Ces observations doivent être lues avec le recul critique nécessaire face aux catégories de son époque, mais elles montrent son effort pour sortir d'un cadre européen strict. La tour de Bollingen joue un rôle différent. Elle représente un lieu de retrait, de travail manuel et de simplification, où Jung cherche à vivre en accord avec ses images intérieures. Ensemble, ces épisodes éclairent le processus de individuation, non comme théorie abstraite, mais comme lente intégration de dimensions opposées de la personnalité. Se connaître signifie ici construire une forme de vie capable de tenir ensemble pensée, symbole, solitude, héritage culturel et expérience immédiate. En conclusion, Ma vie souvenir, Rode et pensée convient aux lecteurs qui veulent comprendre Jung de intérieur au-delà des résumés doctrinaux de ses concepts. Il sera particulièrement utile aux personnes intéressées par psychologie analytique, histoire de la psychanalyse, études des rêves, symbolisme religieux ou autobiographies intellectuelles. Son bénéfice principal est de montrer comment une pensée théorique peut naître de expériences vécues, de crises, de visions et de confrontations, avec des images difficiles à réduire au langage scientifique ordinaire. Le livre aide aussi à situer des notions souvent citées, comme ombre, archétype, inconscient collectif et individuation, dans le mouvement personnel qui leur a donné leur force. Il se distingue des mémoires classiques par son absence de soucis exhaustifs et par sa priorité donnée aux événements intérieurs. Il se distingue aussi des traités de psychologie de Jung par une écriture plus méditative, plus narrative et plus directement liée à son parcours. Cette singularité peut dérouter, car le texte ne remplace ni une biographie critique, ni une introduction systématique à son œuvre. Mais il demeure une porte essentielle vers la question centrale de Jung, comment une vie consciente peut dialoguer avec les profondeurs inconscientes sans les nier ni se laisser. Engloutir par elle. Si vous souhaitez soutenir Carl Gustav Jung, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.